Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. Vous en avez maintenant l'habitude, nous débutons toujours notre chronique par la citation d'un auteur célèbre. Aujourd'hui, je vais évoquer Søren Kierkegaard, qui était né le 5 mai 1813 et qui mourut jeune, un 11 novembre, il y a bientôt 175 ans. Il était à la fois théologien, philosophe, écrivain et poète, danois, protestant, dont l'œuvre est considérée comme une première forme de l'existentialisme chrétien. Son œuvre était constituée de textes critiques sur la religion organisée, le christianisme, la morale, l'éthique, la psychologie, la philosophie religieuse, et elle montre un goût pour la métaphore, l'ironie et les paraboles. Autre particularité de Søren Kierkegaard, il utilisait la flânerie et la marche pour penser l'existence. Il disait notamment « Marcher, c'est un acte de foi dans le monde ». Mais il a également écrit « Avant tout, ne perdez pas votre désir de marcher. Chaque jour, je me promène jusqu'à un état de bien-être et je m'éloigne de toute maladie. Je me suis promené jusqu'à mes meilleures pensées et je connais aucune pensée si pénible que l'on ne puisse s'en éloigner en marchant. Même si l'on marchait pour la santé et qu'elle était constamment une étape devant, je dirais quand même « marcher ». Et je finirai par cette réflexion. D'ailleurs, il est également évident qu'en marchant, on se rapproche constamment le plus possible du bien-être, même si on ne l'atteint pas tout à fait. Mais en restant assis, et plus on reste assis, plus on se rapproche de la maladie. Pour lui, la santé et le salut ne peuvent être trouvés que dans le mouvement. Si l'on continue à marcher, tout ira bien.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présenté par Robert Almalric.
Pour les conseils, un petit rappel à la prudence pour ces acariens, les ixodidas qui sont toujours de la partie. Après le printemps, une de leurs périodes de prédilection, les tiques, car c'est d'elles dont il s'agit, sont toujours là, prêtes à sévir, prêtes à bondir. Pendant leur phase de quête, la tique en chasse attend un hôte pour s'y accrocher. La quête se fait en milieux extérieurs ouverts, sur les brins d'herbe, graminées, fougères ou au sol, à même la terre. Donc pendant les randos, de préférence, évitez les zones boisées denses, les hautes herbes et les fougères, là où les tiques aiment se poster pour attendre un hôte. Portez des vêtements longs et éventuellement, rentrez le bas du pantalon dans vos chaussettes. Sachez aussi qu'il existe un répulsif anti-tique. Après la rando, pendant, par exemple, et après une douche, inspectez soigneusement l'ensemble de votre corps et particulièrement les aisselles, la nuque, l'aine, l'arrière des genoux. Si l'animal n'est plus présent, car en fait sa piqûre est indolore, vous pourrez constater une tache rougeâtre qui s'élargira autour de la morsure dans les jours ou semaines qui suivront. En cas de piqûre non décelée, vous pouvez avoir des symptômes proches d'un état grippal, c'est-à-dire fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires ou articulaires, etc. Si vous avez contracté cette fameuse maladie, la maladie de Lyme, il vous faut un traitement rapide, car si elle n'est pas traitée, la maladie peut évoluer vers des atteintes plus sérieuses, neurologiques, articulaires, voire cardiaques. Heureusement, un traitement antibiotique est très efficace lorsqu'il est administré rapidement. Donc, en cas de doute, consultez votre médecin et mentionnez toujours une éventuelle morsure de tique.
Vous êtes bien sur Radio FM+, et vous écoutez « Je marche, donc je suis ». I'm not trying to have another conversation.
Probably not gonna wanna play me on your station. Donc, après les conseils, des infos pratiques sur l'état des parcours. Aujourd'hui, je n'ai pas de situation particulière à vous communiquer. Je vous rappelle que, pour le plaisir de tous et pour éviter les désagréments, faites-nous remonter les informations sur des randos coupés ou modifiés, quelles qu'en soient les raisons.
Je marche, donc je suis, sur Radio FM+.
Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet de première importance pour les randonneurs, c'est la qualité de la chaussure de randonnée que vous utilisez. Trouver la bonne chaussure de randonnée faite pour vous s'avère peut-être fastidieux, voire tout bonnement impossible, tant il existe de modèles. Afin de vous aider dans cette démarche, je ne vais pas évoquer ni les magasins, ni les enseignes, ni même les marques. Mais sachez que pour de bonnes chaussures de randonnée, il faut qu'elles offrent adhérence, protection, maintien du pied, isolation, aération et confort pour faciliter la marche. Ces qualités peuvent varier bien sûr d'une chaussure à l'autre, en fonction du type de produit et de ses caractéristiques. Ce sera à vous de faire votre choix. Par contre, pour cela, je vais revenir sur un certain nombre de paramètres qu'il faudra prendre en compte pour sélectionner votre modèle. Le premier élément à prendre en considération est le terrain sur lequel vous allez évoluer et le type d'exercice que vous allez pratiquer. Il est certain que si vous faites de la haute montagne, du trekking, ou de la randonnée à la journée, vous n'allez pas utiliser le même type de chaussures. En fait, il existe trois classes de chaussures de randonnée. Les chaussures hautes, dites à haute tige, qui montent très haut, qui sont utilisées essentiellement pour faire de la haute montagne. Elles maintiennent très bien le pied et la cheville. Elles permettent de marcher dans la neige, mais elles ont un gros handicap. Elles sont lourdes et manquent de souplesse. Il y a ensuite les chaussures mi-hautes, dites moyenne tige, qui remontent légèrement. Elles seront plutôt conseillées si vous éprouvez des difficultés à tenir l'équilibre ou si vous présentez une certaine faiblesse des chevilles. Et enfin, il y a la chaussure basse classique, type tige basse, qui ressemble à une basket, mais qui bien sûr n'en est pas une. Dans ces trois catégories, il existe des modèles qui renvoient à des usages bien quantifiés que vous sélectionnerez en fonction de vos besoins. Ce premier choix opéré, l'élément à prendre en compte en premier sera le poids. Choisissez dans la catégorie sélectionnée le modèle le plus léger. C'est l'un des éléments primordiaux avec le grip. Le grip, c'est la qualité de la semelle. Une bonne accroche est primordiale pour évaluer et évoluer sur des sentiers techniques et variés où vous pourrez rencontrer de la boue, des rochers humides, des racines lisses, voire même de la neige. Toute bonne chaussure de randonnée qui se respecte se doit de minimiser au maximum le risque de glissade. Pour le poids, donc, rien de plus facile, il suffit de regarder le poids du modèle. Pour le grip, donc l'adhérence, il existe maintenant de très nombreux modèles qui utilisent la technique Vibram pour le caoutchouc de la semelle extérieure, pour une accroche tout terrain, sans faille, quel que soit le sol. Sur ce point, vérifiez également la rigidité de la chaussure qui doit assurer un bon maintien et une bonne stabilité. Ensuite, en plus du caoutchouc, le design des crampons joue un rôle important pour maximiser l'attraction. Plus ils sont profonds et acérés, et plus l'accroche sera bonne, même si cela peut empiéter sur le confort de la marche. Vérifiez ensuite la semelle intermédiaire, qui doit, elle, offrir un bon confort et surtout un bon maintien du pied très précis. Considérez également l'amorti, qui doit être généreux, pour faciliter votre confort, notamment sur les chemins caillouteux. Vous trouverez aussi des modèles qui vous proposeront des rembourrages double compression pour amortir les impacts. Sur d'autres, une climbing zone sous le gros orteil pour une meilleure approche sur les arêtes techniques en montagne, vous permettant de poser votre pied avec précision à chaque pas. La chaussure de randonnée doit maintenir la cheville, bien sûr, pour éviter les mauvais mouvements qui pourraient entraîner de la douleur, voire une blessure, mais aussi prévoir éventuellement, dans certains cas, un pare-pierre pour protéger les orteils de chocs douloureux. En général, les tiges épaisses de plusieurs millimètres de ces chaussures protégeront votre pied des surfaces pointues et tranchantes. Donc, après avoir considéré ces caractéristiques, il y a la protection contre les éléments. Vérifiez l'étanchéité de votre modèle. Beaucoup de modèles aujourd'hui utilisent la doublure Gore-Tex qui garde le pied sec tout en le laissant suffisamment respirer. C'est un point à prendre en compte, bien qu'il n'existe en fait aucune chaussure de randonnée qui soit totalement imperméable. Car toutes les chaussures disposent d'aération pour permettre à votre pied de respirer. Donc, à vous de voir si vous préférez une étanchéité maximale ou une excellente aération pour un modèle hyper-respirant. Dans certains cas, il peut être préférable d'opter pour une chaussure sans membrane imperméable pour un plus grand confort grâce à une meilleure aération et bien sûr plus de légèreté. Voilà un tour d'horizon rapide des éléments à prendre en compte et sur lesquels se baser avant d'acheter. Pour finir, j'évoquerai la pointure. Cela varie bien sûr d'une marque à l'autre. Et si parfois, malheureusement, ça évolue aussi d'un modèle à l'autre, même pour les chaussures de randonnée de la même marque. Le mieux est donc d'essayer votre paire en magasin avec l'aide d'un professionnel. De manière générale, on recommande de laisser un espace équivalent à la largeur de votre pouce entre votre gros orteil et la pointe de la chaussure. Ainsi, votre gros orteil ne sera pas douloureusement comprimé lors des descentes où le pied, évidemment, naturellement, descend vers le fond de la chaussure. Enfin, peut-être le plus important, tout dépend sur quel plan on se situe, mais le prix reste vital. Alors là, on a des modèles qui vous proposent des performances haut de gamme, mais avec des prix qui, eux, par contre, atteignent des sommets. C'est votre bourse là qui vous guidera. Trouvez le meilleur compromis qui vous procurera la meilleure chaussure avec les performances adaptées à vos capacités et à vos projets. Et pour conclure, un mot sur l'entretien. De l'eau tiède et une brosse souple suffisent pour un bon nettoyage. Cependant, il est également conseillé d'appliquer un peu de cirage ou de cire sur les modèles, bien sûr en cuir, ou un spray imperméabilisant pour les chaussures imperméables. Enfin, il est important de les laisser sécher à l'air libre.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London.
check out Guitar George. He knows all the chords, but it's strictly rhythm. He doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Radio FM+, Robert Amalric, Je marche donc je suis. Deuxième partie. Vous venez d'écouter le groupe Dire Straits, Sultans of Swing. Et nous enchaînons avec notre invitée du jour, Marie-Claude Guibert. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Robert, merci de m'avoir invitée.
Donc Marie-Claude, tu fais partie d'une grosse association montpelliéraine que tout le monde connaît, le MUC.
Centenaire, oui.
Donc toi, tu es plutôt la présidente d'une des sections, la section randonnée pédestre.
Oui, et canine.
Voilà. Ouais. Et canine, car vous...
Elle fait partie des 27 associations du MUC. Et donc, dans cette association, il y a la section canine, canimarche.
Canimarche, oui. Voilà. Qui, comme son nom l'indique, donc, c'est de la marche accompagnée de son fidèle
chien. Voilà, compagnon.
Très bien. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous dire... 27 sections,
oui, entre 25 et 26, peut-être pas 27, mais 25 sûr.
C'est une très grosse association que, bien sûr, tous les Montpelliérains connaissent. Et donc, parle-nous un peu de cette section que tu animes, la randonnée pédestre et canine.
Alors, c'est une association qui a été créée en 1994, qui a déjà donc 31 ans,
oui. Hein,
et qui comporte, cette année, on a beaucoup d'adhérents qui viennent nous rejoindre, donc on en est à 65 adhérents, alors qu'on tournait en général autour de 50-55 adhérents.
Oui.
Donc, bon, on est très contents, mais ça veut dire que...
Il faut les infrastructures, il faut les animateurs, les accompagnateurs
surtout, hein, puisque bon, on est tous des bénévoles.
Bien sûr.
Hein, tous des accompagnateurs bénévoles, donc il faut arriver à trouver des accompagnateurs bénévoles, ce qui n'est pas facile.
Oui. Hein.
Donc on organise des randonnées tous les 15 jours, le dimanche à la journée.
C'est uniquement tous les 15 jours ?
Oui.
Et le dimanche, toute la journée ?
Et le dimanche, un dimanche, ça fait deux dimanches par mois.
D'accord.
À la journée. Donc les randonnées sont entre 13 et 16 kilomètres à peu près. On varie, on a un périmètre de 100 kilomètres autour de Montpellier.
Oui.
Parce que la majorité des adhérents sont montpelliérains.
Oui. Hein.
Et donc, le dénivelé, il faut compter entre 300 et 600 mètres de dénivelé.
Oui.
Donc, bon, on se réunit, il y a un comité technique qui se réunit à peu près une fois par trimestre et qui organise donc le planning, hein, qui crée un agenda de randonnée. Et on essaye de mêler des randonnées sportives avec des randonnées plus tranquilles pour que tout le monde puisse...
Parce qu'en fait, vos randonnées, vous n'avez pas plusieurs niveaux de randonnée.
Non, il n'y a qu'un seul niveau.
Un seul niveau.
Avec la possibilité de temps en temps, quand ça le permet, de faire une variante qui permet à ceux qui ne veulent pas marcher trop longtemps ou avoir des dénivelés trop importants, de prendre un raccourci, toujours accompagné de deux accompagnateurs. Donc c'est pour ça que pour ces randonnées-là, il faut être au moins quatre accompagnateurs.
Bien sûr.
Et ça permet à tout le monde de se retrouver le midi pour manger ensemble.
Ce qui est toujours très agréable,
très convivial,
ce moment d'échange.
Et le soir à la sortie, à l'arrivée de la randonnée, pour fêter un petit peu la randonnée.
Oui, bien sûr.
Un petit coup sur le...
C'est toujours agréable. C'est l'esprit, je pense, randonneur. Quoi.
Voilà,
il faut apporter
la convivialité qu'il y a
des échanges.
Entre, voilà, tout à fait. Hein. Et donc, c'est un... L'association est très bien faite parce que bon, tout le monde est très solidaire.
Oui.
Donc, je suis très contente d'être présidente de cette association.
Et l'âge moyen, vous n'avez pas de limite
moyen,
d'âge ?
Y a pas, c'est de 18 à 99.
Voilà.
Bon, alors, la plus jeune pour l'instant a 37 ans et le plus âgé a 85. C'est lui qui a créé l'association,
oui.
Il y a 31 ans.
Oui.
Voilà. Donc, la moyenne d'âge est entre 60 et 65. Mais cette année, les recrues sont beaucoup plus jeunes, donc ça va faire baisser l'âge moyen.
Ça peut poser quelques problèmes. Il faut avouer que quand même, la randonnée peut se pratiquer, on va dire, à un âge avancé.
Mais après, il faut être conscient de ses possibilités.
Exactement.
Voilà. Parce que bon, quand on doit faire 600 mètres de dénivelé avec 16 km, c'est pas pareil que 12 km avec 300 dénivelés.
Tout à fait. Il faut bien choisir son parcours.
Voilà, il faut bien choisir sa randonnée. C'est pour ça qu'on fait très attention. On décrit toutes les randonnées sur un calendrier.
Oui.
Et donc, les personnes, les adhérents, savent à quoi ils s'attendent. Voilà. Et s'il y a des difficultés, on les note en même temps.
Et alors, le déplacement sur le lieu de randonnée,
alors,
se
fait par covoiturage.
Covoiturage.
Par ses propres moyens ou par covoiturage. Mais il n'y a pas de bus.
Oui.
Notre association,
oui.
On n'a pas la trésorerie assez importante pour mettre à disposition un bus pour tous les adhérents.
Non,
c'est vrai qu'au début, quand l'adhérent commence, c'est un peu difficile pour lui parce qu'il ne connaît personne. Mais au bout d'une ou deux fois, ça y est.
C'est l'avantage.
Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qui facilite ça, c'est que avant la semaine qui précède la randonnée, on envoie un framadat avec toutes les explications et il y a la possibilité de mettre un commentaire. Donc, on conseille à tous les adhérents qui proposent ou qui demandent un covoiturage de bien noter dans le commentaire avec le numéro de téléphone. Comme ça, tout le monde est au courant et ils peuvent se téléphoner, peuvent communiquer.
Bien sûr.
Et c'est beaucoup plus facile. Hein.
Et alors, au final, le dimanche, vous retrouverez combien pour randonner ?
Eh bien, ça dépend. Par exemple, dimanche dernier, on était 15. Ça peut aller jusqu'à 40.
Oui.
Ouais. Donc, quand on est 40, on fait deux groupes.
Voilà, bien sûr.
Parce qu'il faut...
Oui, au-dessus de 20, ça commence
voilà,
à devenir difficile.
Voilà, ouais. Donc on fait deux groupes. Le premier groupe part et puis 10 minutes, un quart d'heure après, le deuxième groupe démarre. Si bien que, on se retrouve toujours dans les moments conviviaux, mais au moins, il y a cette sécurité de... Voilà, de perdre personne.
Ce qui est essentiel, tout de même.
Voilà, tout de même si on a un pourcentage de pertes autorisé, mais bon,
vous ne l'avez pas encore entamé, vous n'avez pas utilisé ce quota. Bien. Parfait. Donc, un effectif qui, à la fois, associe, c'est bien ça aussi, des jeunes et des vieux, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont plutôt des associations seniors, alors que le MUC, c'est ouvert.
Voilà, c'est ouvert à tout le monde.
À tout le monde. Voilà. Parfait. Bien, alors, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche de ce que vous faites sur le terrain,
alors,
est-ce que...
Alors, nous, on fait des randonnées, mais s'il y a la possibilité d'avoir un côté culturel pendant la randonnée, oui. On en profite, hein, notamment si on passe dans un village qui a quelque chose à raconter, une histoire, etc. On profite de cette visite.
Oui.
Voilà. Et donc dans l'année, on fait deux week-ends. Un week-end de Pentecôte qui est plus sportif, donc oui. Tous les jours c'est randonnée, donc on part soit dans les Alpes, soit dans les Pyrénées, soit en Auvergne, pour avoir un peu plus d'altitude, hein, un peu plus sportif. Et en octobre, on fait un week-end semi-culturel, semi-sportif, avec des visites et de la randonnée. Voilà.
Très bien. Vous associez, c'est important d'associer, oui, à la randonnée, oui, la culture, bah, et puis
on apprend toujours quelque chose.
Bien sûr.
On apprend toujours quelque chose à randonnée, que ce soit sur la flore, sur la faune, sur la géologie, on apprend toujours quelque chose.
Ou le patrimoine.
Ou le patrimoine, voilà.
Bien sûr. Et donc, à titre d'exemple, vous pouvez, vous avez beaucoup de parcours, donc vous restez quand même plutôt dans un...
Un parcours de 100 km, parce qu'on privilégie
maximum, ouais,
pas plus d'une heure, 1h30 de route.
Oui, parce qu'après la randonnée, il faut revenir quand on est en voiture.
Voilà, c'est ça, et des fois c'est fatigant.
Quand on a les jambes lourdes, ça, voilà, peut poser quelques petits problèmes, effectivement. Et donc là, je crois, Marie-Claude, que tu vas nous parler d'une randonnée qui...
Voilà, une randonnée qui n'est pas très loin d'ici, hein, qui est à Cournantéral. Et donc la randonnée elle-même, ça s'appelle le Coulazou, puisque c'est le ruisseau qui passe à,
oui,
Cournantéral. Et donc, parce qu'on avait choisi cette randonnée-là, parce qu'en fait, Cournantéral a un passé, une historique très importante.
Oui.
Et donc, il y a une légende sur Hannibal, par exemple, qui était passé...
Qui
donc,
serait passé là avec ses,
voilà,
éléphants.
Avec ses éléphants. Et donc, un de ses lieutenants aurait demandé à s'arrêter dans ce village pour faire désaltérer un petit peu la troupe. Et donc, Hannibal aurait répondu « Cournon ». Cournon. Et donc, d'où Cournon, auquel aurait été rajouté Terral, hein, qui signifie terre battue.
Terre battue, ouais.
Voilà. Donc, la première mention de Cournon-Terral apparaît en 1025.
Donc, oui, il y a déjà une intériorité même, voilà, importante.
Et voilà, donc après, c'est vrai qu'il y a, il y a un patrimoine gustatif, on va dire, qui est le biscuit, l'escalette,
oui,
qui est un biscuit égrolleté, mais qui a son origine donc à Cournon-Terral.
Ah, ça, je ne savais pas, je,
voilà,
découvre.
Ça s'appelle l'escalette, et donc ça appartient à la famille des gaufres, mais c'est très plat.
Oui.
Et en fait, on ne fait plus dans les, enfin, dans les Raux, il reste, j'ai refait les recherches, il reste un magasin qui fait encore des escalettes de façon traditionnelle, qui se trouve à Saint-Saturnin-de-Lucian,
oui,
et qui l'appelle, elle, l'escalette de Montpellier. Mais en fait, c'était le gâteau de Cournon-Terral, initialement. Alors peut-être qu'ils ne vont pas être contents s'ils écoutent là.
Ils l'ont rebaptisé.
Voilà, parce que le nom de l'escalette vient du substantif féminin languedocien, escaletta, qui signifie une gaufre plate et carrelée. Et cette gaufre traditionnelle du Midi date du Moyen-Âge. Donc c'est pas...
Oui,
en fait,
là
c'est
aussi,
tout petit, hein, ouais, c'est tout petit et très plat.
Et ça, il y a du sucre dessus, oui.
Ça se cuit avec du citron ou de la fleur d'oranger. Enfin, ouais. Maintenant, on peut l'aromatiser à ce
bien
qu'on
sûr
veut. Quoi. Et ça se cuisait à la flamme de la cheminée. C'est pour ça qu'on n'en faisait que l'hiver. Et c'est resté surtout un gâteau de carnaval, de la période du carnaval.
Pour les, oui.
Voilà. Et donc, c'est à peu près les mêmes recettes. Ils disent que la gaufre sèche du Nord ou le bricelet de Suisse, mais avec des recettes à peu près identiques. Et donc, ce biscuit qui était tant prisé à Cournon-Terral n'est plus guère cuisiné, par contre. Hein, ailleurs, à part, je vous dis,
uniquement
voilà,
à Saint-Saturnin-de-Lucian.
Voilà. Et apparemment, il a distribué, parce que bon, on trouve des magasins quand même sur Montpellier et... Et voilà, donc c'est resté surtout pour le mois du carnaval, la tradition, c'est resté au niveau de tradition. Voilà. Et Cournon-Terral a aussi un carnaval très très important.
Oui,
hein,
avec ses paillasses,
voilà.
Et sa lie de vin qui voilà, laisse des traces bien souvent.
Laisse des traces bien souvent, je pense que
difficile,
tout le monde la connaît un petit
oui
peu. Hein. Et voilà, donc on avait choisi ça, parce qu'en plus au niveau géologique, il y a le fameux pli de Montpellier.
Oui.
qui est très remarquable. Enfin, j'ai amené une photo parce que si vous voulez agrémenter l'émission, je ne sais pas, si vous mettez des photos.
Oui, oui. Sur le podcast, voilà. Il y a toujours des photos qui accompagnent
et
le podcast.
Donc, c'est vrai que c'est un plissement d'envergure, mais il n'est pas qu'à Cournon-Terral. On le retrouve aussi à la Mousson.
Oui. Hein,
voilà. Et donc, c'était la formation des roches caracelles qui se sont formées lors du Jurassique. Donc il y a quand même pas mal d'années, puisqu'on compte entre 135 et 154 millions d'années que ça s'est formé.
Au moins. Parce que le Jurassique, c'est un peu plus vieux encore. Voilà. Mais bon, c'est...
Oui, ils disent que ce plissement proprement dit qui a eu lieu entre 34 et 53 millions d'années lors de la naissance du massif pyrénéen.
Alors, bon, à vérifier, parce que je n'ai pas tout à fait les mêmes informations concernant à la fois les Pyrénées et ces plissements. Et surtout le Jurassique, parce que en théorie, le Jurassique, c'est de moins 201 à moins 145 millions d'années.
Ah oui, d'années glaces dans les données.
Donc là, ils
vous disent entre 135 et 154. Bon.
Oui, on serait plutôt dans les 200. Dans le Crétacé, quoi. Mmh, voilà.
Ouais.
Bien, mais il y avait sans doute, c'était l'époque où il y avait encore des dinosaures, n'est-ce pas? Donc, voilà.
Mais c'est vrai qu'en plus, bon, c'est très beau, hein, parce que ça comprend presque tout le lit du Coulazou. Je ne sais pas si vous êtes déjà
allé
cette randonnée. Bah, c'est vraiment impressionnant. Hein. Voilà, et ça peut faire une petite balade. Bon, par contre, c'est assez rocailleux. Hein.
Alors oui, comme je disais, on a beaucoup quand même, notamment dans les Garrigues et dans nos environs, des parcours qui comportent beaucoup de pierres. Mais ce que je disais, on regarde le mauvais côté, on regarde ses pieds, mais d'un autre côté, c'est toute une histoire qui est quand même sous nos pieds, qui
est
intéressante de connaître et de découvrir. Très bien. Eh bien, merci Marie-Claude.
Merci à toi.
Vous êtes bien sur Radio FM Plus et vous écoutez Je marche, donc je suis.
I'm not trying to have another conversation. Probably not gonna wanna play me on your station.
Notre chronique hebdomadaire numéro 7, Je marche, donc je suis, se termine. Vous avez le podcast à disposition sur le site de la radio par l'adresse radiofmplus.org. Vous pouvez, à partir du podcast, laisser vos commentaires. Conseils ou propositions pour améliorer cette chronique qui se structure. Vous pourrez même voir la photo que Marie-Claude nous a apportée. Vous pouvez également envoyer directement un mail à contact@radiofmplus.org. Merci Marie-Claude pour cette contribution. On se quitte maintenant sur une chanson que tu as proposée, Jean Ferrat. Restera-t-il un chant d'oiseau ? La bonne question. Bye bye et à la semaine prochaine, 10h.
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures. Que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole. Qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps?
la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?